Lecture nomade en trio. Avec Claudine.
Geneviève.
Et Christiane.
Pour voyager.
Pour rêver.
Pour vagabonder.
S'évader.
Et s'indigner, parfois.
Bonjour à toutes et à tous. En ce beau mois d'octobre, Lecture Nomade vous propose de prolonger les vacances en évoquant les voyages et le tourisme à travers la lecture des textes de trois auteurs qui chacun aborde ce thème de manière différente. Claude Lévi-Strauss, Julien Blangras et Lydie Salvert. Vous regrettez peut-être cette parenthèse estivale, le soleil, la découverte des pays exotiques, vos folles virées en autocar sur des autoroutes surchargées, les apéros pris avec les voisins en attendant que les grillades soient à point, ces longues grasses matinées, préludes à de non moins longues siestes sur la plage bondée, les randonnées dans la touffeur de l'été. Vous vous dites peut-être que vraiment c'était bien et une nostalgie soudain vous envahit et déjà vous pensez aux prochaines vacances, aux prochains voyages. Nous allons vous aider à rêver encore, à moins que le rêve ne vire au cauchemar.
Il y en a une qui est vachement impatiente, c'est la pépette qui part en vacances. Demain, elle s'en va planter sa tente sur une plage au bord de la France. Elle prépare ses affaires énervées, elle s'agite, elle s'affaire, elle panique. Depuis le temps qu'elle est paniquée, elle rêve d'un grand amour exotique. Elle a pris un cache-col, un chandail, sa robe jaune un petit peu déchirée, un poisson surgelé, des tenailles, sa valise en carton va craquer. Elle est quand même heureuse d'être contente, elle a réussi à plier sa tente. Premier jour de vacances infernales, la pépette a voulu s'éclater. Elle a pris une leçon de planche à voile, même la planche a failli se noyer. Pépette a bu la moitié de la mer, puis elle s'est fait mal à le genou. Et tout le pétrole du Finistère a fini dans ses grands cheveux mous. Elle est allée se doucher au camping, puis elle a commencé à flipper. À cause des marques blanches sous son string, puis du reste de sa peau tout brûlée. Elle est quand même furieuse d'être en colère, y a moins de risques avec le nucléaire. Couplet intéressant. Elle se oint, elle s'enduit, elle se pommade de grenouille et de crème Nivea. Elle veut pas que son petit corps se dégrade, car ce soir elle va au Macumba. Une clé d'opium pour sentir bon, sur la nuque et puis derrière les bras, un coup de brosse pour refaire son chignon, elle est prête à tomber Travolta. Elle hésite, la robe jaune, l'écossaise, les collants, les chaussettes ou les bas. Qu'est-ce qui sera le plus pratique si elle baise? Qu'est-ce qui fera flipper les autres nanas? Elle est quand même étonnée d'être surprise devant la contenance de sa valise. Finalement, elle se fringue en pépette, en madone des machines agricoles. Au bout de 5 heures, elle est enfin prête, mais la boîte est fermée, manque de bol. Alors elle va se manger une pizza, au jambon et au centre commercial. Et elle sanglote en pensant à moi, ce qui est complètement immoral. Un troufion qui a rosé la quille vient lui faire un compliment grotesque. Genre vous êtes belle comme quelque chose qui brille. Elle en tombe amoureuse aussi sec. Elle est quand même déçue d'être triste, pas tombée sur un parachutiste. Couplet pathétique. Ils se font dévorer par les moustiques toute la nuit sous la tente sur la plage. Au matin ils se font un petit pique-nique, un sandwich aux fourmis et fromage. Alors avec un bâton en bois, Ils écrivent leurs prénoms sur le sable. Elle dessine un cœur et lui un foie. Puis regarde l'horizon lamentable. Elle va lui chercher des cigarettes au village d'Iborna Piécélon. Quand elle revient, il a fait de basket en lui gaulant sa valise en carton. Dedans il y avait ses robes et ses sous, ses papiers, des tenailles, un poisson. Ses vacances sont foutues pour de bon, avec à faire un peu attention et c'est tout.
Renaud, le retour de la pépette et c'est tiré de l'album Mistral gagnant. Claude Lévi-Strauss, anthropologue et ethnologue français, mort en 2009, raconte dans son livre « Triste tropique », publié en 1955, la naissance de sa vocation d'ethnologue et sa première expédition chez les Indiens du Brésil.
Je hais les voyages et les explorateurs. Et voici que je m'apprête à raconter mes expéditions. Mais que de temps pour m'y résoudre. 15 ans ont passé depuis que j'ai quitté pour la dernière fois le Brésil. Et pendant toutes ces années, j'ai souvent projeté d'entreprendre ce livre. Chaque fois, une sorte de honte et de dégoût m'en ont empêché. Et quoi ? Faut-il narrer par le menu tant de détails insipides, d'événements insignifiants ? L'aventure n'a pas de place dans la profession d'ethnographe. Elle en est seulement une servitude. Elle pèse sur le travail efficace du poids des semaines ou des mois perdus en chemin. Des heures oisives pendant que l'informateur se dérobe. De la faim, de la fatigue, parfois de la maladie. Et toujours de ces 1000 corvées qui rongent les jours en pure perte et réduisent la vie dangereuse au cœur de la forêt vierge à une imitation du service militaire. Les vérités que nous allons chercher si loin n'ont de valeur que dépouillées de cette gangue. À 5h30 du matin, nous entrions en rade de récifs, tandis que piaillaient les mouettes et qu'une flottille de marchands de fruits exotiques se pressait le long de la coque. Un si pauvre souvenir mérite-t-il que je lève la plume pour le fixer ? Pourtant, ce genre de récit rencontre une faveur qui reste pour moi inexplicable. L'Amazonie. Le Tibet et l'Afrique envahissent les boutiques sous forme de livres de voyage, comptes rendus d'expéditions et albums de photographies où le souci de l'effet domine trop pour que le lecteur puisse apprécier la valeur du témoignage qu'on apporte. Loin que son esprit critique s'éveille, il demande toujours davantage de cette pâture. Il en engloutit des quantités prodigieuses. C'est un métier, maintenant, que d'être explorateur. Métier qui consiste, non pas comme on pourrait le croire, à découvrir au terme d'années studieuses des faits restés inconnus, mais à parcourir un nombre élevé de kilomètres et à rassembler des projections fixes ou animées, de préférence en couleur, grâce à quoi on remplira une salle. Plusieurs jours de suite, d'une foule d'auditeurs auxquels des platitudes et des banalités sembleront miraculeusement transmutées en révélations pour la seule raison qu'au lieu de les démarquer sur place, leur auteur les aura sanctifiés par un parcours de 20 000 kilomètres.
Triste tropique est publié aux éditions Terres Humaines.
Les grands voyageurs laissent dans le cœur des ardoises. Les grands voyageurs laissent les tuiles aux Tuileries. Cherchent des amuse-gueules au buffet de la gare. Trop de femmes seules pourront m'affamer. Les grands voyageurs se posent sur le ventre d'une âme seule. Ne respectent pas les consignes, ne font pas de cadeaux. Sinon des solitaires à des égéries en souffrance. Donne la migraine avec des récits captivants. À quatre pattes. À quatre pattes. À quatre. Cabine où je t'appelle, on distingue des crépuscules en toc, des bruits d'hélice, des musiques d'ascenseur pour femmes seules, pour hommes affamés. Et le vermisseau qui t'appelle, ruisselle, ruisselle.
Bachung, les grands voyageurs, et c'est tiré de l'album Osez Joséphine.
Julien Blangras est journaliste de profession et voyageur par vocation. En 2011, il a publié Touriste. Il y dépeint ses multiples voyages. Extrait.
Certains veulent faire de leur vie une œuvre d'art. Je compte en faire un long voyage. Je n'ai pas l'intention de me proclamer explorateur. Je ne veux ni conquérir les sommets vertigineux, ni braver les déserts infernaux. Je ne suis pas si exigeant. Touriste, ça me suffit. Le touriste traverse la vie, curieux et détendu, avec le soleil en prime. Il prend le temps d'être futile, de s'adonner à des activités non productives, mais enrichissantes. Le monde est sa maison, chaque ville une victoire. Le touriste inspire le dédain, j'en suis bien conscient. Ce serait un être mou au dilettantisme disgracieux. C'est un cliché qui résulte d'une honte de soi, car on est toujours le touriste de quelqu'un. Rien n'empêche de concevoir le tourisme comme un cours de géographie à l'échelle 1 et la géographie comme le terreau de toutes les sciences humaines. Sous les cartes, les hommes. La dynamique du monde ne s'appréhende pas en restant dans un fauteuil. Il faut que j'actionne mon mouvement perpétuel. Je ne dois pas traîner. Des civilisations s'écroulent au moment où j'écris et d'autres émergeront à la fin de cette phrase. Elles nous tendent les bras. Je n'ai rien de mieux à faire que de leur rendre visite. Ma place dans le monde, je l'inventerai à chaque pas.
Épisode indo-népalais où l'on dîne chez la mère de Bouddha. Dès l'aéroport, on est aspiré par les arômes de l'Inde, l'encens, les épices et la merde. L'arrivée à Bombay, il aurait fallu que Céline l'écrive. Figurez-vous qu'ils étaient couchés dans cette ville, par grappes de famille, agglutinés par milliers sur les absences de trottoirs, pataugeant dans la misère, en lutte pour l'espace vital et contre le système des castes, avec les gaz d'échappement et les rats en guise de voisinage. Bombay grouille, elle est dense et pressée. L'intimité n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un à votre mètre carré. Je suis coincée sur un carrefour au milieu d'un trafic aberrant, sans possibilité de fuite. Un homme m'aborde en agitant des moignons purulents sous mon nez. « Monnaie, monnaie !» Je fouille mes poches, lui donner une poignée de pièces le plus vite possible pour écourter le spectacle. Je marque un temps d'arrêt. « Comment je vais te les donner ces pièces, mec? Tu n'as pas de main !» L'homme qui doit avoir l'habitude secoue la tête d'un air engageant et resserre ses avant-bras. J'y dépose l'obol. Il s'en va sans faire tomber une seule pièce. La scène se déroule à une centaine de mètres de l'hôtel Taj Mahal, le plus luxueux du pays. Je me faufile dans le nightclub du palace. Ici, loin de la lèpre, s'ébroue une jeunesse tout de Prada vêtue qui s'enfile des cocktails au prix prohibitif, même pour un ressortissant de la zone euro. Je constate que les codes de la grande pétasserie internationale s'appliquent au pays de Gandhi comme à celui de Paris Hilton. Les princesses, robes étincelantes et gloss aguicheurs, ne s'intéressent qu'aux détenteurs de cartes platinium. Je fuis pour aller m'écrouler sur le matelas de la chambre sans fenêtre d'une guest house miteuse. Il ne fallait pas s'attarder. Peu après, un commando terroriste passera au Taj Mahal pour massacrer quelques dizaines de personnes sans discrimination de caste.
Interlude de club avec Raskolnikov à Djerba. J'ai fait une expérience inédite. C'est une bonne nouvelle en soi. Certaines personnes ne font jamais rien pour la première fois. Ils naissent, ils achètent un canapé, ils meurent. Mais toutes les premières fois ne sont pas forcément glorieuses. J'ai longtemps hésité avant de rendre ce fait public. J'ai passé quelques jours dans un club de vacances, l'antithèse d'un voyage en somme. Moi, je voulais partir en Iran ou en RDC pour faire l'aventurier et frimer en rentrant. Mais le rédacteur en chef m'a dit « Fais-moi un papier sur Djerba la douce. Tu angles sur le côté art de vivre, hein ? Les arômes et les couleurs du Maghreb authentique. » Il convient ici de préciser l'évolution de ma situation professionnelle. Auparavant, j'enchaînais les petits boulots pour dépenser tout l'argent que je n'avais pas en billet d'avion. Je collabore désormais aux rubriques « Évasion » de quelques magazines. Un petit pas pour la presse, un grand bond pour moi. Au lieu de travailler pour voyager, je voyage pour travailler. C'est un bon compromis, je pars souvent. Je peux désormais me présenter officiellement comme touriste professionnel. La piscine est grande comme le Luxembourg. Je suis allongé sur un transat cerné par une masse considérable de vacanciers en maillot de bain ayant opté pour la formule vol plus séjour all inclusive proposée par un voyagiste en ligne pour l'hôtel Dar Djerba. La zone est quadrillée, pas l'enfer, juste un bon moment à passer. C'est le paradoxe du touriste. Le principal désagrément de sa démarche réside dans l'existence de ses semblables. Si l'on considère le voyage comme une volonté de se perdre ou au moins de s'éloigner, l'idée de côtoyer ses voisins de métro habituels peut anéantir votre séjour. Or, comme me l'a dit un jour une amie travaillant en open space, on n'a pas le droit de rater ses vacances. De tous les touristes, il est une figure redoutable et bien connue qui fait frémir tous les jeunes dotés d'un sac à dos. Je veux bien sûr parler de l'allemand Enchort. Tentons une définition. L'allemand Enchort désigne un gros touriste âgé de plus de 40 ans et doté d'un bedon confortable sur lequel repose un caméscope. Il a un short, c'est entendu. Il voyage en groupe, parfois en famille, jamais seul. Contrairement à une idée couramment admise, l'allemand Enchort n'a pas nécessairement la nationalité allemande. C'est ce qu'on appelle un faux ami. En effet, le concept dépasse très largement le cadre de la Germanie. L'allemand Enchort peut très bien être hollandais ou danois. Il est facilement autrichien, cela va sans dire. Il ne faut pas se voiler la face, il lui arrive d'être français. Plutôt au nord d'une ligne Besançon-Le Havre. Un Allemand, Enchort, français avec l'accent marseillais, ça ne fonctionnerait pas. Soyons clairs. Les adeptes du touriste canalisé sont dans leur plein droit. Ils triment dur toute l'année. Ils méritent bien d'aller reposer leur cerveau en pension complète. Mon sac à dos et ma solitude ne me confèrent aucune supériorité morale sur le troupeau. Simplement, je préfère le contourner. Et ici, à la piscine du Dar Djerba, je suis prise au piège dans l'usine à soleil.
Épisode brésilien où l'on voit des pauvres en vrai. Dans la plupart des pays, ma couleur de peau trahit le gringo. Je trimballe l'Occident avec moi. Je ne peux pas y échapper. Mes origines inspirent de la fascination ou le ressentiment et toute la palette de préjugés se situant entre les deux. L'idée la plus répandue veut que mon portefeuille soit mieux rempli que celui de l'autochtone. Le gamin qui demande une pièce, l'ado qui propose du shit, le vieux qui vend un collier de coquillages pourris pour la 24e fois de la journée, situation inévitable dans les pays dépourvus de sécurité sociale. Sous l'anecdote de voyage, toute la thématique nord-sud. Face à l'indigène indigent, le touriste peut adopter des attitudes variées que nous allons examiner ici.
1. L'indifférence. Je ne suis pas responsable de la misère du monde.
Ce bambin est bien mignon, avec sa main tendue et son ventre gonflé par la malnutrition. Mais chacun ses problèmes, mon petit gars. Tu vois, moi, je n'ai plus de batterie à mon portable et je ne vais pas enquiquiner tout le monde.
2. La compassion. Oh mon Dieu, c'est horrible, cet enfant est pieds nus.
Un sentiment noble à manier avec précaution, souvent inefficace, voire contre-productif. Donner une paire de chaussures au petit gars peut, certes, améliorer son quotidien. Ne pas oublier que le petit gars risque de se faire dépouiller par un plus gros avant d'avoir fait 100 mètres.
3. L'agacement. T'as qu'à bosser, feignant.
J'ai déjà vu des touristes insulter et chasser physiquement des enfants qui demandaient poliment une petite pièce. Je recommande l'interdiction de passeport pour cela.
4. La culpabilité. Oh, je suis un monstre. Je viens de m'offrir un baptême en deltaplane et je refuse de payer un soda à cet enfant.
L'avantage de la culpabilité, c'est qu'elle atteste de l'existence de votre conscience. Vous êtes conscient d'être conscient, donc vous êtes, quelque part, quelqu'un de bien. La culpabilité est une option narcissique.
5. La théorisation. Tout ça, c'est la faute de la société.
Vous avez parfaitement analysé le poids de l'inertie sociale et la cupidité aveugle des organismes financiers responsables du carnage. Une fois ce constat établi, cet enfant a toujours faim.
6. Le dandysme christique. Pleurons notre impuissance avec style.
Consiste par exemple à glisser une liasse de billets sous un clodo endormi. Gardez une pièce pour dissoudre dans un caipirinha les larmes que vous arrache la douleur du monde.
Le touriste navigue entre ses humeurs au gré de l'état de son âme. Parfois, il aide. Sa simple présence remplit des estomacs. Parfois, il altère, dénature, ravage les endroits qu'il visite, le plus souvent par ignorance. Il ne sauve pas le monde, il n'est pas là pour ça. Le touriste finit toujours par rentrer chez lui.
Moi qui ai fait les voyages, c'est les voyages qui m'ont fait. Entre passeurs et passages, c'est le métier qui me plaît. Voir passer les caravanes, mélanger l'encre et le sang. Écouter près des chamans, les origines du temps. Moi qui ai fait les voyages, c'est les voyages qui m'ont fait. Entre passeurs et passages, c'est le métier qui me plaît. Dans le langage tambour, il y a des dialectes inconnus pour dessiner les contours d'une cité disparue. Pas moi qui ai fait les voyages, c'est les voyages qui m'ont fait. Entre passeurs et passages, c'est le métier qui me plaît. Faut chercher dans les racines le goût subtil des fruits. Et même dans les usines, la mécanique des mélodies. C'est les voyages qui m'ont fait. Entre passeurs et passages, c'est le métier qui me plaît. Alors jouons sur la rime, entre le fleuve et la mer. Un voyageur anonyme m'attendra pour prendre un verre. Trafiquant de métaphores, insurgé de l'univers. Passager du mal d'aurore, entre la mort et la mer. C'est les voyages qui m'ont fait. Entre passeurs et passages, c'est le métier qui me plaît. Pas moi qui ai fait les voyages, c'est les voyages qui m'ont fait. Entre passeurs et passages, c'est le métier qui me plaît.
Bernard Lavillier avec Voyageurs et c'est tiré de l'album Carnet de bord.
Bien. Dans Les Belles âmes, roman publié en 2000 aux éditions du Seuil, Lydie Salver nous embarque dans un voyage organisé et d'un genre un peu particulier.
Ici, le jour ne ressemble pas au jour. Le jour est comme un morceau délavé de la nuit.
L'accompagnateur, par ses mots, veut gifler les esprits. Il a l'âme d'un prêtre. Prompte à redresser, à faire peur, prompte à violer les consciences, eût dit celui que je ne peux nommer. Les touristes affichent aussitôt l'expression protocolaire de la tristesse dans la dignité et descendent du car en silence pour se retrouver devant le bloc D et y attendre Jason, l'agent d'ambiance, qui doit venir les rejoindre en renfort, au cas où. Le voilà qui s'amène, bras ballants, démarche de singe. On se présente, on s'enchante, en dépit du décor qui n'a rien d'enchanteur, il faut en convenir. Qui est même assez déprimant pour parler avec franchise. Jason, prononcé Jason, expose à l'accompagnateur les diverses étapes de l'excursion dans la cité.
Les touristes veulent des sensations fortes, ils vont être servis.
Il est à préciser que Real Voyage, l'agence qui organise ce périple à travers l'Europe des démunis, a prévu un programme à la fois vertical et longitudinal. Le programme longitudinal consiste à présenter aux touristes un échantillonnage varié, autant qu'exhaustif, des différents spécimens de pauvres. Quant au programme vertical, il conseille d'y aller progressif. D'abord, les pauvres présentables, puis les moins présentables, puis les encore moins présentables, jusqu'au dernier des derniers, jusqu'aux épaves, dont la seule vision vous dégoûte de vivre. Première visite donc, la Cité des Sables, dans la banlieue nord de Paris. On commence en douceur. Contrairement au dire de Jason, qui noircit le tableau à dessein pour appâter les touristes crédules, lesquels se mettent en branle à cet instant précis, pilotés donc par l'accompagnateur qui fait une tête sinistre. Lui-même secondé dans cette pénible occurrence par Jason, prononcé Jason, j'insiste, un jeune homme à la coule, tout en langueur et en souplesse, promu par on ne sait quel sort, agent d'ambiance.
Et pour l'ambiance, on peut compter sur lui. Levez votre regard, osez,
dit l'accompagnateur tout pénétré de sa mission qui est de dessiller les yeux des touristes aisés sur la situation des affligés.
Voyez ce qui s'accomplit sur terre et à deux pas de vous. Entendez-vous la plainte qui sourd de ces immeubles ?
Madame Folkircher pense.
Ce type est complètement fou.
Odile Boifard dit.
Non, j'entends rien.
En outre, elle s'avoue fort déçue par ce qu'elle découvre. Ni voitures incendiées, ni cabinets téléphoniques saccagés, ni taxes sur les murs, rien qu'une trentaine de blocs ternes de part et d'autre d'une autoroute. C'est d'un banal. Heureusement, voici qu'un groupe d'adolescents survient au coin du bloc F. Les adolescents se déplacent avec une lenteur élastique et comme s'ils étaient montés sur des ressorts de Cadillac. Rien à voir avec la démarche des gens de la ville qui courent à fond la caisse vers leur bureau au nid. L'un d'eux lance une boîte de bière en direction du groupe de touristes. Le tir est remarquable puisque le projectile arrive pile dans les pieds de Madame Pitt. Mais celle-ci manque des réflexes footballistiques de base. Au lieu de shooter comme quiconque le ferait, Madame Pitt prend peur et se met à courir à toutes petites enjambées.
C'est un comique!
Le groupe de touristes n'emmène pas large et passe en peloton serré devant les 6 adolescents qui rient sans retenue. L'un d'eux traite Jason, l'agent d'ambiance, de
« bouffon sans couille ».
À quoi Jason répond
« Fais gaffe aux tiennes ».
L'échange est d'une étonnante sobriété. Les adolescents observent les touristes comme s'il y avait dans leur façon quelque chose de totalement incongru. La feuillade, qui tient à se poser en personnage cool, hasarde un
« Salut les gars !»
mal assuré, piteux et pour tout dire à peine audible, auquel les adolescents du reste ne répondent pas. Monsieur Desfosses, quant à lui, conserve un pas égal. Il veut prouver que, premièrement, il n'est pas un dégonflé et que, deuxièmement, il est en phase avec la jeunesse du pays. Son épouse, qui le talonne, lui murmure que ces adolescents les prennent probablement pour des touristes ordinaires, c'est-à-dire des voyeurs, d'où leur réaction bien compréhensible d'hostilité. Son mari la rabroue.
Tu n'as qu'à aller leur expliquer.
Tous les touristes prennent soudain conscience qu'ils sont, aux yeux de ces jeunes gens, des figures hostiles, sinon ennemies. Ça leur fait un grand choc. Le vieil incendie va-t-il se rallumer ? Plus violent d'avoir couvé si longtemps sous la cendre. Ce sera le débat du dîner. Vite, revenons à nos touristes qui s'impatientent. Il est temps de préciser qu'il s'agit de touristes haut de gamme, de touristes délicats, de touristes tout ce qu'il y a de cultivé et d'ouvert, tout à fait digne de figurer dans le wouzou, haïssant le tourisme de masse, haïssant en vérité tout ce qui est de masse. De touristes sans appareil photo en bandoulière, ni chansons à boire, ni pique-nique, ni papier gras. De touristes qui sont autant d'individualités fortes. Doués de paroles fortes, et d'avis personnels, et de caractère. Jason annonce aux touristes, large sourire, qu'il va faire avec eux le tour du proprio.
Comme il est drôle!
Vous risquez, dit-il, de croiser quelques individus aux traits australopithèques.
D'où tient-il ce langage?
Mais ne craignez rien, ces personnes sont totalement inoffensives.
Mais qu'il est amusant!
Monsieur Lafeuillade, le magistrat des pâtes et farines, demande à Jason si les habitants de la cité exploitent, dans toute la mesure désirable, les possibilités qu'offre leur cité. Jason répond que les habitants de la cité, non seulement exploitent toutes les possibilités offertes, mais se montrent de surcroît extraordinairement imaginatifs. Par exemple, ils transforment les toits des immeubles en rampes de lancement, les parkings en cours de récré et les caves en bésodrome.
S'ils étaient tous comme lui.
Odile Boiffard demande à Jason à quoi les jeunes de la cité occupent leur journée. Jason répond.
Primo à la cam et Deuxio au vol de portable, en attendant les 25 ans pour toucher le RMI.
Lui, plus tard, il montera un bar où toutes les serveuses seront sexes. Mais au rythme où rentre le fric, il aura 90 balais à l'ouverture. Ce qui risque de faire un peu tard pour la baise.
Irrésistible.
À croire que la pauvreté a du bon si elle donne aux esprits ce piquant. Et Madame Pitt insiste.
Ne comptez-vous pas entrer un jour ou l'autre dans la vie active?
Entrer, mais par où?
Ah, ce jeune a réponse à tout. Quel aplomb, quelle malice, comme il est chaud.
Et toutes ces dames de glousser, de se pâmer devant Jason, qui l'a très bien senti, et parade tel un coq devant ces bourges parfumées et follement démocratiques. Son verbe cru, sa brutalité joyeuse, et la façon dont insolemment il les bouscule, tout cela les excite énormément. Beurre is beautiful.
Mais voyons, il n'est pas beurre. Tous les jeunes des cités ne sont pas beurre, quelle idée!
Rectificatif d'Odile B. Pour rendre justice à ces dames, il me faut préciser que Jason, qualifié injustement de singe par la feuillade, a l'élégance inimitable des voyous, cette nonchalance ennuyée et hautaine, et quelque chose dans les gestes d'ensommeillé et de vif à la fois qui humanise cette élégance. Grâce à son enjouement, les touristes aisés vont pouvoir encaisser courageusement tous les spectacles déprimants. Question: comment peut-on être gai, tel ce jeune Jason, et vivre dans d'aussi déplorables parages? Cela signifierait-il que de telles conditions de vie ne sont pas aussi effroyables qu'on pourrait le penser à première vue? Voilà qui est bien réconfortant. Madame Pitt s'étonne. Elle ne voit aucun enfant alentour. Madame Pitt aime les enfants, elle est prof.
Où se cache-t-il donc?
Dans les cages, répond Jason.
Dans les cages, dit Madame Folkircher émoustillée.
D'escalier, dit Jason avec un sourire malicieux.
Ah, il était bourré, fond, dit Madame Folkircher.
Tu vas vite changer d'avis, pauvre conne, pense Jason. Madame Pitt rit. Madame Pitt rit comme on s'excuse. Une main sur la bouche et les épaules qui tressautent. Un peu à la façon des acteurs taïwanais qui jouent le rôle du lâche dans les films de karaté. L'expression consacrée « rire sous cape » peut donner une certaine idée de la chose. Bon, maintenant, un peu de sérieux. Jason présente aux touristes le plan de la matinée. Une visite dans une famille française de pauvres New Look. Une deuxième dans le parking de la cité. Et une dernière chez une concierge de forme classique. Chaque visite durera demi-heure, précise l'accompagnateur. Puis nous regagnerons l'autocar à 11h30, direction Molenbeek, dans la banlieue de Bruxelles.
Les romans de Lydie Salvert sont disponibles à la médiathèque de Sainte-Afrique.
Merci Geneviève. Merci Christiane. Vous pouvez réécouter cette émission mardi à 20h et jeudi à 14h. Et sur le site de la radio, bien sûr, radiosaintafrique.com.
On se retrouve en décembre. Au tout début des vacances de Noël, justement. Et oui. D'ici là, passez d'excellentes vacances de Toussaint.
Et oui. Salut.
Lecture nomade en trio. Avec Claudine.
Geneviève.
Et Christiane.
Pour voyager.
Pour rêver.
Pour vagabonder.
S'évader.
Et s'indigner, parfois.